8h10 à Port-au-Prince, l'heure du journal d'Haïti des Amériques avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bienvenue à tous. Quel sort pour les jeunes immigrés aux États-Unis qui pouvaient jusqu'à présent bénéficier du Dream Act? Ces Dreamers ont manifesté hier, notamment à San Francisco, contre le projet de Donald Trump de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et on verra dans votre revue de presse, Arim Lipold, qu'ils risquent bel et bien l'expulsion. Bonjour Arim.
Bonjour, bonjour à tous.
On va parler aussi des élections législatives en Colombie le week-end prochain, les premières après l'accord passé avec les FARC dans un contexte tendu, des élections test avant la présidentielle en mai prochain. Explication de notre correspondante à Bogota, Marie-Ève de Teuf. Et puis on ira à la rencontre d'un chanteur de reggae français d'origine haïtienne. Williams Brutus sort son premier album, Lester. On revient donc tout d'abord sur le programme DACA aux États-Unis, appelé aussi le Dream Act, instauré sous l'administration Obama et qui permet à des centaines de milliers d'immigrés qui sont arrivés enfants dans le pays d'être régularisés. On les appelle les Dreamers et ils ont manifesté un peu partout aux États-Unis hier pour dénoncer la remise en cause de ce programme par l'actuel président Donald Trump. Celui-ci avait donné 6 mois au Congrès, c'est-à-dire jusqu'à hier, pour décider du sort de ces immigrés. Aucun accord n'a été trouvé entre démocrates et républicains qui ont entamé un vrai bras de fer. Ces jeunes arrivés avec leurs parents craignent une expulsion vers un pays d'origine que souvent ils ne connaissent pas. En Californie, la police fédérale de l'immigration a multiplié les raids pour arrêter et expulser les sans-papiers, déclenchant des manifestations contre la politique migratoire, comme à San Francisco où s'est rendu notre correspondant Eric Desalve.
Sous les fenêtres de la police fédérale anti-immigration à San Francisco, ils sont venus soutenir 150 sans-papiers, tout juste arrêtés. Ils sont plusieurs centaines. Certains se sont enchaînés aux portes du bâtiment pour empêcher toute expulsion d'immigrés. Parmi eux, des religieux comme le révérend Dan Schmidt.
The Trump immigration policy is racist.
La politique d'immigration de Trump est raciste. Complètement raciste. On l'a vu pendant sa campagne électorale quand il a attisé le racisme au sein de sa base, de ses partisans, pour capitaliser sur ce sentiment. Maintenant, il met tout cela en application. Tout ceci est légal, mais ça ne veut pas dire que c'est juste.
En première ligne du cortège également, une rangée d'avocats comme Francisco Urgarte, qui défend bénévolement des sans-papiers.
Ils ont un programme qui s'appelle Opération Fugitif. Ils envoient des agents d'immigration partout, patrouillent dans les quartiers, identifient des cibles, rentrent chez les gens, les suivent en voiture, les arrêtent. C'est très moche, mais nous n'allons pas laisser faire cela.
En première ligne, dans la résistance anti-Trump, la Californie s'est déclarée état sanctuaire en septembre. Ce statut lui permet de limiter la collaboration de ses services avec la police fédérale en matière d'immigration, mais n'empêche pas les expulsions. Eric Desalve, San Francisco RFI.
Arim Lipold, le sort réservé aux Dreamers aux États-Unis, il en est aussi question dans la presse nord-américaine aujourd'hui.
Oui, Anne, pour le journal canadien Le Devoir, l'avenir incertain de ces jeunes est, je cite, le flou du jour. Effectivement, le flou, écrit Le Devoir, persiste à Washington alors que le Congrès est plongé dans une impasse sur cette question. Selon USA Today, c'est le président lui-même qui a créé cette crise autour des Dreamers et lui seul pourrait y mettre un terme. Le journal rappelle qu'en attendant une nouvelle législation du Congrès, le programme DACA se poursuit grâce à un juge fédéral qui a suspendu la mise en œuvre de l'une des plus cruelles politiques du président Trump, à savoir l'expulsion de ses Dreamers. Au cours des derniers 6 mois qui ont suivi le décret présidentiel mettant un terme au Dream Act, les militants et avocats des droits de l'homme qui s'occupent de ces jeunes migrants sont devenus experts en prévention des suicides. Écrit USA Today, l'angoisse d'être arrêté par des agents d'immigration est devenue insupportable. Des milliers de jeunes migrants doivent à présent se battre pour leur droit d'exister dans un pays qu'ils considèrent comme le leur.
Car malgré la suspension du décret présidentiel, Arim, beaucoup de Dreamers pourraient en effet être expulsés.
Oui, c'est ce qu'affirme le Huffington Post. Certains ont demandé le renouvellement de leur statut de protection, mais en attendant, ils pourraient perdre leurs emplois, leur permis de conduire, ne serait-ce que temporairement, explique le site d'information. Beaucoup de jeunes ne sont pas concernés par la décision de justice de bloquer la décision de Donald Trump, car ils n'ont jamais bénéficié du programme DACA. Du coup, rien ne change pour eux, ils risquent toujours d'être arrêtés et expulsés, explique un avocat des droits de l'homme dans la Huffington Post. Un peu partout dans le pays, on l'a entendu dans le reportage avant la presse, des jeunes migrants ont manifesté contre la fin du programme Dakar. C'est le cas aussi de la Mexicaine Wendy Robles qui a battu le pavé de Chicago hier. Je prie pour que Dieu touche le cœur de Donald Trump et fait que les lois d'immigration changent, des propos recueillis par le Chicago Sun-Times.
Merci à Rim Lipold, on vous retrouve dans un instant pour la suite de votre revue de presse. Mais tout de suite, direction la Colombie, où l'on va voter dimanche des élections législatives avant les présidentielles en mai prochain. La Colombie qui, pour la première fois, va voter dans un contexte de paix avec la guérilla des FARC. On se souvient qu'un accord de paix avait été signé en 2016, mais le contexte électoral reste tendu. Marie-Ève de Teuf, correspondante à Bogota.
Ce sont les premières élections sans FARC en 60 ans. Il n'y aura pas d'urnes brûlées ni de bus détruits. Il y a eu beaucoup moins de morts. Mais le débat politique reste très tendu, très polarisé, comme on dit ici. Alors la campagne pour les législatives de dimanche et celle des présidentielles se confondent, évidemment. Les candidats à la présidence accompagnent leurs candidats parlementaires sur le terrain. Plusieurs ont été victimes d'agressions. Vendredi, la caravane du candidat de gauche, Gustavo Petro, a été attaquée dans la ville de Cúcuta. Sa voiture a reçu un projectile. Petro affirme qu'il a été victime d'un tir. Les autorités démentent et parlent d'un jet de pierre. Mais tout le monde s'inquiète. Les assassinats politiques continuent ici. 282 morts depuis la signature de l'accord de paix. Alors début février, c'est Rodrigo Londoño qui avait suspendu sa campagne. Rodrigo Londoño, qui est plus connu sous son alias de Timochenko, c'est le candidat de la FARC, le parti politique issu de la guérilla des FARC. Timochenko, la semaine dernière, a été victime d'un malaise cardiaque. Il doit être opéré à cœur ouvert dans les jours qui viennent. Mais là, c'est un coup de pas de chance, ça n'a rien à voir avec la politique.
Marie-Ève, y a-t-il déjà des pronostics pour le scrutin de dimanche, à savoir les législatives ?
Alors, les législatives sont toujours difficiles à prévoir pour les sondeurs, mais a priori, il n'y aura pas de surprise. Paix ou pas, les politiciens de toujours vont probablement garder leur siège et leur majorité. La vieille pratique d'achat des votes n'a pas disparu. Et pour faire campagne, il faut beaucoup d'argent. Résultat, les candidats de la droite liés aux grands éleveurs, aux milieux d'affaires et même à la mafia vont probablement conserver leur pouvoir au sein du Congrès. Et il y aura bien sûr quelques exceptions, mais la gauche démocratique très divisée et les Verts pourraient n'obtenir que quelques sièges. Paradoxe, la FARC, elle, est assurée d'avoir 5 sénateurs et 5 députés en application de l'accord de paix, qui fait évidemment grincer des dents.
Alors on l'a dit, après ces élections législatives en Colombie, il y aura les présidentielles au mois de mai et le candidat de gauche fait figure d'outsider.
Alors, tout peut encore bouger. Pour le moment, c'est Gustavo Petro, ce candidat de la gauche radicale, qui a été guérillero dans sa jeunesse, qui a été maire de Bogota. C'est lui qui crée la surprise, puisqu'avec 22% des voix, il talonne le candidat de la droite dure et il semble assuré de passer au deuxième tour. Mais tout peut encore bouger à partir de dimanche, quand les parlementaires élus vont faire campagne avec tout leur argent pour leur président. Mais la droite colombienne déjà est terrorisée à l'idée d'une éventuelle victoire de Petro.
Merci Marie-Ève de Teuf, correspondante à Bogota. Et on prend la direction du Brésil à présent avec, à la une de la presse, à Rim Lipold, des ennuis judiciaires pour le président Michel Temer.
Oui, car la Cour suprême a décidé de lever le secret bancaire de Michel Temer. C'est ce que rapporte le magazine Veja. Une information reprise par tous les principaux journaux du pays. Le président est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin pour mettre en place un décret qui favorise des entreprises portuaires. Selon O Globo, le gouvernement a pris la décision de la Cour suprême par la presse.
L'autre actualité judiciaire au Brésil concerne l'ancien président Lula.
Le tribunal supérieur de la justice doit se prononcer ce mardi sur le recours posé par Lula contre la peine de prison ferme à laquelle il a été condamné. Rappelons que l'ancien météorologiste a écopé un appel de 12 ans et un mois de prison pour corruption passive et blanchiment. Le jugement d'aujourd'hui sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube, ce qui est une première selon l'Estado de Minas. Le procureur demande en fait la prison ferme immédiate pour Lula qui pourrait toutefois, si le tribunal supérieur de la justice va dans ce sens-là, contester sa décision auprès de la Cour suprême.
Et pour finir à Rim, l'immigration haïtienne au Chili, c'est à la une du Miami Herald.
Un reportage très très intéressant, vraiment à lire dans ce journal de Floride sur le désenchantement des Haïtiens au Chili. Tous les jours, des centaines d'Haïtiens arrivent dans ce pays qui n'était pas celui de leur premier choix. Mais les portes se ferment de plus en plus aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Et du coup, Joseph, 28 ans, a décidé d'aller à Santiago où il travaille comme journaliste. Son histoire et bien d'autres à découvrir dans ce reportage du Miami Herald.
Merci beaucoup, Arim Lipold.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et c'est l'heure de retrouver Alter Press, le média haïtien, avec Godson Pierre. Bonjour.
Bonjour.
À la une en Haïti, le décès de l'ingénieur agronome Gérald Mathurin à l'âge de 64 ans, une figure de l'engagement politique en matière d'accompagnement des paysans et qui a œuvré pour la mise en place des collectivités territoriales.
L'ancien ministre de l'Agriculture de 1996 à 1997 et dirigeant de la Coordination régionale des organisations du Sud-Est, la CROSS, a succombé à un accident vasculaire cérébral. Il avait 64 ans. Très aimé dans le Sud-Est, d'où il est originaire, il a tenté à deux reprises, en 2015 et 2016, de se porter candidat au Sénat. Sa candidature a été à chaque fois rejetée par le précédent et l'actuel conseil électoral pour absence de décharge de sa gestion comme ministre. Les demandes adressées aux instances préposées à octroyer des décharges, en particulier le Parlement, sont restées lettres mortes, alors que, suivant des informations, une partie ou la totalité de la documentation concernant la gestion de Mathurin aurait disparu dans la destruction partielle du ministère de l'Agriculture lors du tremblement de terre de 2010. Il est question également d'un incendie qui aurait affecté le même ministère. Aujourd'hui, en plus de se sentir orphelin, des militants du Sud-Est ne cachent pas leur frustration face au blocage d'un système qu'ils considèrent foncièrement injuste.
Godson, ce décès a provoqué de nombreuses réactions attristées de ces anciens combattants de lutte et de ses proches, bien sûr.
Des personnes l'ayant côtoyé ont témoigné leur admiration à l'endroit du défunt et ont fait part de leur désolation. Cross a perdu une tête pensante, affirme David Lamour, membre de l'Assemblée des délégués de l'organisation. Il assure que le mouvement gardera les idéaux de Mathurin comme boussole. Dans une note de presse, l'Organisation du peuple en lutte, dont la Cross est un allié, dit apprendre avec une profonde tristesse le décès de ce modèle de conviction du paysage politique haïtien. Mathurin s'est toujours illustré par son engagement en faveur du développement du pays au service de la majorité souffrante. Des réactions également dans le camp de ses adversaires. La mort de Mathurin constitue une vraie perte pour Jacques Mel, pour le Sud-Est, pour le monde du savoir. C'est ce qu'a ainsi déclaré sur son compte Twitter le sénateur du Sud-Est Joseph Lambert, président de l'Assemblée nationale. Les funérailles de l'ancien ministre Mathurin auront lieu dimanche à Jacmel. La veille, une cérémonie d'hommage sera organisée à Port-au-Prince.
Et autre sujet à la une d'Alter Press, les femmes se mobilisent déjà en Haïti à deux jours du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes.
Des annonces concernant plusieurs activités nous parviennent. En effet, manifestations, conférences et expositions sont entre autres prévues autour des droits des femmes. Le thème de la violence n'est pas laissé de côté. Une journée de réflexion a eu lieu hier à Port-au-Prince en vue de sensibiliser sur l'importance de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un projet de loi sur la question déposé au Parlement depuis 2017 tarde encore à être voté, regrette la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent. Elle s'exprimait en marge de l'activité. Les échanges de la journée ont abouti à la résolution qu'il faut renforcer la lutte contre les violences que subissent les femmes et les filles à travers le pays.
Merci Godson Pierre. On poursuit en musique avec un disque en forme de retour aux sources. Le premier album de Williams Brutus, chanteur de reggae français originaire d'Haïti. Les chansons en apparence légère font écho à son parcours d'enfant adopté. Le titre de cet album, Lester, Sébastien Gédor.
immense dreadlocks et guitare en bandoulière, Williams Brutus est retourné à Haïti pour la première fois en 2014. Lester, c'est le nom de sa ville d'origine dans la région d'Artibonite. Il y a retrouvé des frères, des sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces de la famille qu'il n'avait pas revue depuis son adoption.
J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de retrouver mes origines, mes racines, avoir les réponses à mes questions. C'est la première fois que je voyais mon pays, sentir sa terre, parler sa langue avec les siens, c'était dingue.
À l'unisson des grands thèmes du reggae, Williams Brutus chante la lutte contre la corruption, le mirage de l'immigration. Deux titres sont interprétés en Yoruba, une des langues du Nigeria. La kora s'invite entre la guitare et les percussions, le fruit d'un heureux hasard, Williams Brutus.
C'est une rencontre avec Monsieur Bademba Kanouté, c'est un Malien, que j'ai rencontré à Dijon. Il a l'habitude de jouer dans les rues à Dijon. Et un jour, je lui ai proposé de venir enregistrer sur mon album. Il a accepté et je le remercie.
Ces rencontres, Williams Brutus aimerait les multiplier lors d'un futur voyage en Afrique, une autre histoire de racines.
L'album Lester de Williams Brutus à retrouver chez tous les bons disquaires. Merci Sébastien Gédor. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal de la Première présenté par Tessa Groman. Bonjour.
Bonjour Anne.
Et à la une, la mobilisation des enseignants de Saint-Martin.
6 mois après le passage d'Irma, les professeurs réclament la remise aux normes parasismiques et anticycloniques des établissements scolaires de l'île. Ils souhaitent aussi que tout le territoire soit classé en zone d'éducation prioritaire. Ils ont adressé un courrier en ce sens au nouveau recteur, Guillaume Marceau, secrétaire académique du syndicat SNEFS-FSU.
Vu la situation socio-économique de l'archipel, il est urgent de classer toute l'académie en éducation prioritaire pour une raison très simple, c'est que si on prend n'importe quel établissement, qu'on regarde les caractéristiques socio-économiques, qu'on regarde le taux de chômage, le taux de famille monoparentale, etc., eh bien si on était dans n'importe quelle autre académie, cet établissement serait classé en éducation prioritaire. Donc on dit dans ce cadre-là, pourquoi pas classer toute l'académie, non pas pour marquer d'un sceau rouge les établissements de l'académie, mais bien pour leur donner des moyens supplémentaires pour réussir.
En bref, un nouveau cambriolage dans une banque en Guyane. Il s'est passé à la poste de Baduel à Cayenne. 300 000 euros dérobés. Les malfaiteurs ont réussi à maîtriser le système d'alarme. C'est le deuxième cambriolage dans le département en moins de 6 mois. En octobre dernier, 200 000 euros avaient été volés dans une banque de Rémire Montjoly. Malgré les mauvaises conditions climatiques en Martinique, les distilleries ont commencé à broyer les cannes pour la production de rhum. Plusieurs millions de litres devraient être sortis de ces usines, Jean-Baptiste Anatole.
Depuis 10 jours, les distilleries tournent avec la récolte de la canne. Elles ne tournent pas à fond pour l'instant à cause du temps. La forte pluviométrie du moment contrarie la récolte. Charles Larcher, le directeur du Coderom.
Pour 2018, nous avons une problématique qui est celle de Maria, savoir quels sont les impacts exacts de Maria. Les cannes sont parfois couchées dans les champs, donc difficiles à récolter. Maintenant, le plus gros souci que nous avons là en ce moment, c'est effectivement ce carême qui est un peu gras et donc un peu pluvieux et qui donc perturbe l'entrée des machines dans les champs et n'aide pas effectivement les distilleries aujourd'hui à avoir les quantités de cannes qu'elles souhaitent avoir dans l'immédiat.
Toute la profession scrute le ciel en ce moment. Il reste seulement 3 mois pour tout récolter en espérant que le temps soit de la partie.
Reportage Jean-Baptiste Anatole, Martinique, La Première. En Guadeloupe, c'est le retour de l'igname couscouche. Cette plante infestée par des virus avait disparu des champs depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle avait été conservée au centre de ressources biologiques de l'INRA à Petit-Bourg. Après plusieurs années de travaux pour la débarrasser de ces virus, le CRB a fourni des semences saines à une start-up et les premiers tubercules ont été récoltés. Richard Arnolin, ex-chercheur à l'INRA et co-gérant de la start-up, il est interrogé par Josiane Champion, Guadeloupe, La Première.
Cet igname a pratiquement disparu et il est grand temps de la remettre sur le marché, de la remettre dans les assiettes. Le goût n'est sûrement pas connu maintenant. Dans les années 50, il y en avait. Même dans les années 70, il y avait des agriculteurs qui avaient encore des plantes de couscouche chez eux. Cette parcelle qui est ici a été plantée en 2017. C'est le deuxième cycle après culture in vitro. Donc nous récoltons aujourd'hui.
Voilà, et l'Ignane couscous se mange principalement en gratin, Anne.
Merci beaucoup, Tessa Gromane. C'est la fin de votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques à retrouver en podcast sur le www.rfi.fr. Merci à Jonathan Brady à la réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et on se retrouve demain.
RFI Talent présente les Amazones d'Afrique. Un collectif inédit unissant les plus grandes voix du Mali comme Mamani Keïta ou Rokia Koné. Réunis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ces divas sont en concert le 17 mars à 20h30 à l'Embarcadère à Aubervilliers près de Paris. Plus d'infos sur www.banlieubleu.org.